Pascal.
Bonjour Stan.
Bonjour Stan.
Nous sommes dans la deuxième partie de ce cours MVA dédié à l'évolution du data center vers quelque chose de plus moderne et notamment toute la partie évolution et chemin de migration depuis Windows Server 2003. Donc, dans cette seconde partie, nous allons parler des expériences au pluriel de déploiement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement passer d'un vieux environnement vers un nouveau. Et quand on va passer vers un nouveau, en général, on va faire non pas de l'upgrade sur place, mais de la migration, donc le déploiement de nouveaux serveurs. Et donc là, l'idée, effectivement, c'est de se dire, si on part sur une nouvelle base de système d'exploitation telle que Windows Server 2012 R2, on va avoir besoin, ou on va utiliser un matériel qui est plus récent ou plus puissant. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à nous quand on part d'un vieil environnement sur du vieux matériel 2003, 2003 R2 vers du nouveau? Eh bien, en fait, on en a trois grosses options, en gros, pour une machine. Soit on remplace le matériel existant, le vieux matériel, par un matériel plus récent, plus moderne, avec plus d'avantages, moins énergivore, etc. Soit, c'est un choix assez classique depuis quelques années, on choisit de transformer la machine virtuelle en machine physique, donc on va la virtualiser sur un autre serveur, sur un hyperviseur, quel qu'il soit.
Tu veux dire l'inverse, alors, la machine physique en machine virtuelle?
Je me suis trompé.
Il me semble.
Non, je crois pas.
Si, tu t'es trompé.
D'accord, on va prendre l'environnement l'environnement qui était physique et on va le mettre donc sur un environnement virtuel. Donc on va faire du P2V, hein, du physical to virtual, on pourrait dire, sauf qu'on va pas faire ici une transformation, mais plutôt la réinstallation de nouvel environnement sous la forme d'une machine virtuelle. Troisième option, donc ce nouvel environnement Windows Server 2012 R2, on peut également le relocaliser à l'extérieur du data center d'entreprise sur un cloud public, donc une machine virtuelle qui va tourner sur une infrastructure de type IaaS, infrastructure as a service.
Yes, bah, le déploiement, comme tu l'as dit, ça a bien changé par rapport à ces temps de Windows Server 2003. Hein. Je crois que personne ici n'est nostalgique hein, de cette époque 2003 où on allait exploser les flats dans un répertoire, essayer d'y injecter des drivers comme on pouvait, de bricoler des fichiers ini et puis d'espérer qu'au reboot la sauce n'explosait pas en vol. Donc c'était pour le moins pas aisé. Et puis déployer ça soit en refaisant un média, soit en utilisant les services RIS. Et Remote Installation Service, qui pareil n'évoquera aucune nostalgie, du moins ici dans cette salle. Alors on a des choses plus modernes. On a notamment maintenant pour les images, pour l'ingénierie des images et du déploiement de Windows, l'utilisation du format de fichier WIM. Donc c'est un format de fichier de déploiement d'images Windows qui est packagé. Donc en fait on va inclure dedans un ensemble de choses de manière assez simple. Donc on va pouvoir monter une WIM, y injecter des choses, refermer le fichier et puis pouvoir déployer la WIM avec les mécanismes classiques de Windows. Donc pas de choses complexes et hasardeuses. Et puis il y a un ensemble d'outils qui nous permettent de manipuler ces fichiers WIM. Donc si on ne veut pas le faire en mode totalement manuel, on a notamment le Microsoft Deployment Toolkit, MDT, qui est l'outil qui va me permettre de faire l'ingénierie des images de manière assistée. Alors juste pour vous faire l'image rapide, hein, MDT, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer, il va nous offrir une couche graphique et un ensemble d'autres avantages, desquels on va rediscuter, mais il va nous offrir ces avantages-là en utilisant les outils classiques d'ingénierie de Windows, donc ce qu'on appelle le ADK, l'Assessment and Deployment Toolkit, qui est l'ensemble de l'outillage qui permet de monter les WIM, de bricoler du WIM, de créer des fichiers de boot, etc. etc. Donc le MDT, c'est vraiment cette partie d'interface graphique et de centrale en fait pour faire l'ingénierie de mes images.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nouvelle image de système d'exploitation client ou serveur, on va dire à partir de Vista,
ouais.
Égale MDT obligatoirement.
Voilà, humainement raisonnable, c'est un petit peu cette option qu'on va utiliser. Donc MDT qui va me permettre d'ouvrir mes fichiers WIM avec la dépendance sur ces binaires que je viens d'évoquer. Et puis, une fois qu'on a fait cette petite ingénierie dans mon centre de déploiement, dans le MDT, et bien en fait, là, on va industrialiser ce truc-là en utilisant des outils comme Configuration Manager, site de System Center, qui lui va permettre de gérer de manière industrielle, on va dire des grosses bases, pour dire, voilà, tel serveur avec tel MAC adresse, il a tel rôle, donc si je relance une opération de déploiement, il va déployer tel et tel rôle déjà automatiquement. Donc on va pouvoir vraiment industrialiser les opérations. Et puis ce qui remplace le composant RIS, qui permettait de faire le boot sur le réseau et de faire les installations à distance, c'est maintenant globalement WDS, schématiquement. Donc WDS, c'est le Windows Deployment Services, qui va permettre de gérer la séquence de boot sur le réseau, le PXE, et puis d'envoyer les images et de faire les images via le réseau, tout simplement.
WDS, c'est la version moderne de Feurice.
Voilà. Ah, ce
Feurice.
Feurice.
Tout à fait.
Alors, MDT, Deployment Toolkit 2013, c'est celui qui nous permet de manipuler des images Windows Server 2012, 2012 R2. Et c'est en gros bah, l'usine à master. C'est une espèce de console centralisée sur laquelle je vais créer en fait différents répertoires, différents repositories qui vont contenir en fait tout un tas de trucs pour déployer des serveurs qui ont tout un tas de trucs en commun. Donc c'est un espèce de, l'outil s'appelle l'outil principal du Deployment Toolkit s'appelle le Deployment Workbench, qui est l'outil qui va me permettre d'installer mes différents binaires dans un container et puis d'utiliser ce container pour ensuite continuer vers mes déploiements. Alors il y a d'autres outils dans le Deployment Toolkit, hein, notamment là il y a le UDI Wizard, ce qu'on appelle le User Driven Installation, qui va me permettre de faire une expérience de setup un petit peu personnalisée, tu vois, qui permet de faire un beau branding et puis surtout de faire des assistants super personnalisés par rapport aux besoins de l'organisation. Mais dans cette démonstration que je vais vous faire dans quelques instants, je me concentrerai uniquement sur le Deployment Workbench, qui permet de faire l'ingénierie des images basiques, on va dire. Donc, on a MDT. MDT va me permettre de faire mon environnement, d'installer, de mettre mes binaires de Windows, mes binaires d'Office, mes binaires de tous les autres composants que j'ai installés sur mon serveur. Bah, typiquement, l'attirail d'administration de mon serveur physique, hein, potentiellement, c'est une mécanique physique. Et puis, je vais pouvoir en fait ajouter, séquencer des tâches que je vais faire pour le déploiement de mon serveur. Donc, bah, la tâche, ça va être d'ajouter tel rôle, de faire tel et tel, lancer telle ligne de commande additionnelle pour finir le setup complet de bout en bout de ma machine.
Donc ça remplace un petit peu les scripts bricolage qu'on avait dans les masters historiques 2003,
Voilà.
2000, 2000
Voilà. Plus
et...
besoin de gérer les scripts de manière avancée, c'est-à-dire gérer tout un ensemble de séquençage de scripts. En fait, vous venez avec votre script, vous l'injectez, c'est lui qui va s'occuper du séquençage, de voir si ça s'est bien exécuté en prenant le return code, en le reportant dans le fichier de log. Donc ça permet de faire un espèce de framework assez facilement. Une fois qu'on a fait ça, on choisit vers quoi on va déployer tout ça. C'est-à-dire que globalement, ce qui est assez sympathique avec le MDT, c'est qu'on va pouvoir dire, bah voilà, j'ai fait mon ingénierie dans mon coin. À partir de là, je vais pouvoir l'exporter vers mon serveur WDS pour faire du boot en PXE. Je vais pouvoir faire du boot classique, enfin utiliser du multicast. Je vais pouvoir faire un déploiement sur VHD. Et je vais pouvoir également préparer un média bootable. C'est-à-dire que lui va me dire, tiens, si tu veux, je te prépare un ISO. Elle tu graves comme ça et puis tu auras ton CD qui sera prêt pour faire tes déploiements physiques par exemple.
Là, on voit l'avantage de cette notion d'image, c'est que finalement l'image elle est portable après sur différentes méthodes de déploiement. La méthode la plus artisanale, la plus historique, effectivement le média physique qu'on transporte jusqu'au serveur, en passant par les plus modernes, effectivement l'utilisation du réseau hein, de manière automatique.
Exactement, bah, je vous propose qu'on regarde un petit peu à quoi ça ressemble dans un petit environnement de test.
On dit toujours, hein, plutôt que des mots, des mots.
Des mots. C'est parti. On est sur mon serveur Windows 2012 R2. On va démarrer le Deployment Workbench, qui est ce centre qui me permet de faire la création de mes images. Donc je vais ici, je cherche hop, Deployment Workbench. J'ai au préalable évidemment installé MDT sur ma machine avec ses dépendances. On voit ici qu'en fait il y a tout un tas de composants qui vont permettre de faire l'ingénierie de mes images, donc le Automated Assessment Kit, le ADK, Assessment and Deployment Toolkit, qui permet de faire cette création des images. Donc, une fois que j'ai fait ça, je crée ce qu'on appelle un Deployment Chair. À l'intérieur de ce Deployment Chair, en fait, j'ai au préalable positionné des images Operating System. Parce que ça prend un petit peu de temps, mais en gros, globalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Import Operating System. J'ai été lui chercher le fichier WIM de Windows Server 2012 R2. Et puis, il a été récupérer l'information. Et puis, il a importé les binaires, en fait, dans mon Deployment Chair. Une fois que j'ai créé ça, j'ai également positionné des applications. Alors là, par exemple, j'ai prépositionné les binaires de SQL Server 2012 qui pourra s'installer de manière silencieuse. Donc là, de la même manière, j'installe une application, je spécifie les sources, je spécifie les numéros de version et je spécifie ensuite les détails pour faire une installation unattended. Enfin, partie qui jusqu'à présent était un petit peu délicate, la partie driver, l'injection des drivers. Donc là, de la même manière, en fait, je vais juste faire un port driver, je vais lui donner un répertoire dans lequel j'ai positionné les drivers des périphériques que je souhaitais mettre dans mon environnement. Donc, de cette manière-là, quand je booterai mon environnement de déploiement, moi, j'aurai les drivers qui seront déjà prêts pour la machine que je cherche à déployer. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce qu'il va aller chercher les fichiers INF, il va regarder ce qu'il y a dedans, il va regarder comment ça pourra s'adapter aux couches hardware que je vais utiliser dans mon environnement.
Du coup, d'où l'intérêt d'avoir une bonne connaissance de son parc matériel lorsqu'on va créer cette opération, de se dire effectivement si j'ai les marques X, Y ou Z, bah, je vais chercher les dernières versions sur les sites web des différents constructeurs et puis je les injecte pour maintenir sur une base régulière ces fameuses images WIM.
Voilà, endroit idéal pour les mettre à jour. Donc là, c'est la partie où j'ai effectivement mes composantes qui sont prêtes à déployer. Et ensuite, ce que je vais faire en gros le déploiement réel d'un serveur avec l'ensemble des tâches. Donc, on peut créer des séquences de tâches, des task sequences qui vont me dire à quoi correspond un serveur que je vais déployer. Donc là, on peut en créer une. On va faire new task sequence. Donc là, on va faire la task 5, on s'en fout, hein. Le chiffre en fait c'est juste un identifiant pour nous, et puis on va faire déploiement MVA. Hop, on valide. Il nous dit quel type de déploiement est-ce que tu veux faire ici. Est-ce que tu veux faire un déploiement type sysprep et capture, un déploiement d'un OS client typique, une tâche séquence un petit peu personnalisée, du light touch pour de l'OM, donc pour intégrateur de matériel, ou alors une tâche de déploiement pour du serveur. C'est celle qu'on va utiliser ici, standard. Server Task Sequence. On valide, et puis là il va nous dire quel operating system tu veux utiliser comme cible. Et bien, on va prendre un serveur data center. Donc ça c'est l'OS qui va être au bout de tout ça. Je vais pouvoir d'ores et déjà lui spécifier une clé produit, ou alors dire bah non, ce sera spécifié à un autre endroit. Par exemple, la machine sera activée bah, par un KMS ou autre.
Donc c'est là par exemple, si vous êtes sur du Windows Server 2012 R2 en data center, vous pouvez mettre une clé AVMA. La clé AVMA, c'est une clé qui est la même pour tout le monde, parce que la licence est activée par le lot de virtualisation,
Voilà,
par
de
exemple.
machine virtuelle.
Alors, c'est une bonne idée, hein. Si on utilise effectivement MDT et une task sequence pour déployer des VM, mais j'ai mieux à vous proposer pour ça dans quelques instants, on va en discuter.
D'accord.
Alors, ici, je ne mets pas de clé produit parce que j'utiliserai d'autres mécanismes. Ici, l'organisation, la personnalisation de l'OS, hein, tout simplement. Et puis, le mot de passe local. Donc, est-ce que je veux un compte administrateur avec un mot de passe local ou est-ce que j'en veux pas? Hop, ici, j'en mets un juste pour le test. Je valide, il me dit voilà ce qu'on va faire. Ok, donc là il crée une séquence de tâches qui est déjà stéréotypée, mais on va pouvoir rajouter des choses. Donc là on va pouvoir dire déjà sur quelle plateforme tourne cette séquence de tâches. Puisqu'en fait, une séquence de tâches, on va pouvoir la tourner bah, sur un environnement Windows PE, donc un environnement de boot qui sera du 62 ou du 34, 32 bits ou 64 bits. Ou alors, on y a aussi des tâches de déploiement qu'on peut directement lancer depuis un OS existant. Ce n'est pas notre cas ici, mais on peut dire, voilà, je suis sur un 2003 et je vais lancer une séquence de tâches qui va faire une migration vers autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. Donc, je vais prendre ma séquence de tâches ici et c'est là que je vais rajouter des tâches particulières. Donc là, tu vois que j'ai effectivement bah, les tâches qui vont aller récupérer l'état de mon serveur, faire une installation, une post-installation. Donc là, post-installation du système, je vais redémarrer la machine et puis là, je vais faire un restore. Donc, c'est les étapes après le setup. Donc je pourrais dire installer différentes applications. Et là, je pourrais moi aussi rajouter des tâches qui vont dire par exemple de rajouter des rôles dans Windows, configurer le rôle d'HCP, configurer le rôle DNS ou le rôle Active Directory. Donc là, je peux dire installer des rôles. Ce sera des rôles qui seront de type 2012 R2. Et puis, je peux spécifier des rôles ou je peux simplement rien spécifier et puis laisser cette opération à la personne qui fera le setup. Donc ici, on valide ça. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir effectivement bah, ici mettre à jour mon partage de déploiement. Alors ici, mettre à jour mon deployment share, ça va consister à aller recompiler par exemple le fichier de boot, l'image Windows PE que ça va créer par derrière, et puis injecter les drivers et toutes ces opérations-là. Donc si je veux voir hein, mon deployment share, simplement ici, on voit que c'est dans mon disque dur, j'ai deployment share, et puis si on regarde un petit peu la composition de tout ça, bah, j'ai effectivement un environnement qui contient des boots, des fichiers boot, donc un light touch, deux fichiers lighttouch.wim. Donc ça, les fichiers WIM sont les fameuses images de Windows. Là, c'est l'image de boot simplement, et c'est cette image-là que je vais importer dans mon WDS. Donc c'est lui qui va me permettre à ma machine de booter sur le réseau. Après, j'ai aussi des fichiers ISO si je veux utiliser cette méthode de déploiement. Là, j'ai la partie operating system où simplement je vous disais tout à l'heure que j'avais déjà préimporté un operating system. Bah là, globalement, on va voir les flats de Windows qui sont présents par ici. Et puis dans la partie application également, j'ai les flats de mon serveur SQL qui potentiellement est là et déployable depuis ce Deploy Manager. Là, j'ai les drivers que j'ai injectés. Donc, il a fait un split des drivers et puis il a rajouté tout ça. Et puis ensuite, j'ai un ensemble de packages, de scripts et d'outils qui vont être injectés dans mon partage. Donc, ça, c'est la première partie qui consiste à faire l'ingénierie de mon environnement. Là, j'ai créé un petit environnement qui me permet de faire un déploiement basique. La prochaine étape, ça va être quoi? Ça va être de prendre ce fichier WIM que je viens de générer ici en local. Je vais l'importer sur mon serveur WDS. Et puis, on va faire un petit test sur un serveur de déployer une machine avec du boot depuis du PXE. Ça vous paraît correct?
Génial.
Oui. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais aller sur mon serveur, ici sur mon deuxième serveur, qui, lui, est mon serveur WDS dans cet environnement. Donc là, je vais aller dans la console WDS, et c'est là que je vais spécifier les différentes images de boot qui vont être disponibles auprès de mes utilisateurs. Donc là, on voit que dans boot, j'ai deux choses, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici très basiquement importé dans mon serveur le boot.wim qui est dans le média par défaut du Windows Server 2012. Et puis j'ai importé le Lightouch PE 64 bits que j'ai créé sur mon serveur membre 1. Donc là, simplement, ce que j'ai fait, j'ai été ici at boot image, j'ai été sur tac member 01, j'ai utilisé le deployment share dollar, ou alors je peux m'y aller directement comme ça. J'ai été chercher l'image de boot, tac, et je l'ai prise comme ça, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Ici, je ne le refais pas parce que je l'ai déjà préparé au préalable, parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai des images d'install de Windows classique, mais ça sont les images sans personnalisation. Donc là, j'ai mon serveur WDS, on voit, puisque la petite flèche est verte, qu'il devrait être opérationnel, donc je peux, à partir de là, prendre une machine, booter en faisant F12, et puis aller récupérer une séquence de boot et booter depuis mon PE. On va essayer de faire ça. Donc ici, j'ai pris un exemple avec une petite machine virtuelle. On fera plutôt ça pour des serveurs physiques hein, en général, mais c'est une possibilité. Ici, je vais tirer parti de cette facilité. Donc là, il me dit, voilà, j'ai détecté qu'effectivement, on pouvait faire du PXE. Je télécharge le Network Boot Service. Il est en train là de négocier avec le serveur pour voir les différentes images de setup que tu as. Donc c'est exactement ce qu'on voyait dans mon serveur WDS, mon setup classique et mon Lightouch PE. Donc si je prends mon Lightouch PE, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est en train d'aller récupérer ici sur mon serveur WDS le Lightouch PE 64 bits, puisque c'est une plateforme 64 bits ici. Et puis bah, dans quelques instants, il me montrera le setup customisé que j'ai fait par rapport à mon environnement MDT.
Donc là, bon, entre nous, le WDS, c'est bien principalement pour déployer des serveurs physiques. Est-ce qu'on peut dire qu'on est d'accord?
On est totalement d'accord.
Donc effectivement, ça sert à faire des déploiements quand vous installez un rôle particulier sur un serveur physique et vous ne baladez pas avec le média dans le data center. Vous contrôlez à distance vos serveurs avec les cartes de management embarquées, les fameuses BMC.
Ouais.
Donc à distance, sans vous déplacer dans le data center où il fait froid, vous lancez le démarrage électrique du serveur, le lancement du PXE, et vous pouvez installer les machines. On peut même pousser plus loin dans certains outils comme Virtual Machine Manager, on peut faire ce qu'on appelle du déploiement bare métal, c'est-à-dire qu'effectivement, on provisionne des serveurs physiques qui sont déjà branchés électriquement et dont électriquement et au réseau et dont les cartes BMC sont déjà configurées correctement. Et on peut directement, depuis Virtual Machine Manager, provisionner un nouveau serveur Hyper-V ou un cluster de fichiers de type Scaled File Server. Et c'est en utilisant en fait ces images WDS et ces images packagées qu'on va pouvoir faire cette opération.
Ouais, donc là c'est les options qui effectivement existent sur mon environnement. Tu vois là j'ai créé un petite personnalisation hein, sur l'écran. Qu'est-ce qu'il va faire? Là il va initialiser les couches réseau. Il va dire tiens j'ai détecté qu'effectivement j'ai mon environnement. Qu'est-ce que tu veux comme clavier pour faire ton setup? Donc on va prendre ici le français. On va dire, vas-y, c'est bon, lance-moi un assistant de déploiement. Donc là, on va dire, par exemple, je suis Arnaud ou administrateur. On va prendre pour être simple. Il va me demander mon nom de domaine. Donc à partir de là, il va connaître mon identité, m'authentifier. Donc il pourra déjà faire un ensemble d'opérations peut-être sur la D. Donc là, on voit ici qu'on a à disposition ce que j'avais tout à l'heure dans mon workbench. Puisque là, globalement, il a été se connecter au réseau sur mon deployment share et voir ce qu'il y avait disponible comme tâche de déploiement. Donc là, on va faire un déploiement MVA. Et dans le déploiement MVA, on voit qu'il me dit, voilà, tu peux faire Ici, le nommage de ta machine, donc test MVA. On peut lui demander de faire directement l'opération de domain join, et on voit que là, il peut même récupérer mes credentials. Hein. Mm-hmm. Tac, on va lui mettre ici le domaine. Là, on règle les différents paramètres de type horloge.
Donc là, on est d'accord, c'est parce que tu as fait au moins un déploiement très basique, ça on pourrait l'automatiser également,
complètement.
Jusqu'à aller à 100% d'automatisation.
Exactement, c'est ce qu'on appelle du light touch, après on peut aller dans du zero touch pour le déploiement des environnements. Donc, on valide suivant, tu vois que tout à l'heure, je n'avais pas renseigné de rôle, mais là on peut dire directement, bah, écoute, tu seras mais gentil, mais tu pourras m'installer tel rôle automatiquement une fois que le setup aura été complété. Par exemple, tu m'installes, hop, allez, un petit truc web server comme ça. Là, est-ce que tu veux installer SQL en même temps tant que tu y es? Bon, oui, pourquoi pas. Hein. Hop, c'est un serveur. Est-ce que tu veux lui mettre BitLocker? Est-ce que tu ne veux pas lui mettre BitLocker? Ça peut être intéressant d'avoir BitLocker sur du serveur pour un tas de raisons et pour un tas de scénarios. Hop, on fait begin, il va lancer les tâches et à partir de là, j'ai un déploiement qui va se faire. Donc là, c'est séquencement des différentes tâches que j'avais préparées au préalable.
C'est là en général qu'on fait ce qu'on appelle la pause café.
Voilà, la pause café qui permet effectivement de se ressourcer et d'aller discuter du déploiement auprès de ses collègues.
Voilà. Eh bien, écoute, merci Arnaud pour cette démonstration. Et on va rebasculer sur encore d'autres éléments pour la partie déploiement des serveurs 2012 R2.
Exactement. On va voir que sur les VM, j'ai d'autres choses à vous proposer encore plus intéressantes.
Mmh. Eh bien, effectivement, autre méthode de déploiement au-delà des outils de MDT qui permettent principalement de déployer, on le répète hein, là encore, des serveurs physiques. Aujourd'hui, on fait quand même massivement des machines virtuelles. Et pour les machines virtuelles, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment un super outil dans la gamme System Center. Il s'appelle Virtual Machine Manager. Et il permet en fait de déployer des machines virtuelles et de les gérer sur différents hyperviseurs. Donc les hyperviseurs les plus communs qu'on trouve aujourd'hui sur le marché en termes de part de marché, VMware, ESX, Hyper-V, et puis également Xen Server de chez nos amis de Citrix. Donc, à partir du Virtual Machine Manager, on va pouvoir, pour déployer une nouvelle machine virtuelle, non pas s'appuyer, on pourrait, mais ça paraît réellement intéressant, s'appuyer sur du WDS avec du MDT. On va plutôt accélérer encore le process d'installation et utiliser ce qu'on appelle des modèles de machine virtuelle. Donc, un modèle de machine virtuelle, basiquement, l'administrateur va définir plusieurs composantes. Je vais nous montrer une démonstration juste après. La première partie d'un modèle de machine virtuelle, c'est en gros sa configuration matérielle. Alors, matériel, mais matériel virtuel, c'est-à-dire combien de virtual processeurs à la machine, combien elle a de RAM, est-ce que la RAM est dynamique ou pas, combien de cartes réseau va avoir la machine, combien de disques durs virtuels vont être attachés à cette machine. Ensuite, sur ces disques virtuels, pour la partie installation et gagner du temps, on va partir sur pour la partie système, un disque système qui sera sur une base de disque système de VHD 6 prépé. Et la deuxième partie d'un modèle de machine virtuelle, dans le cadre de Windows, qu'on peut également faire des modèles de machine virtuelle pour Linux, dans le cadre de Windows, on va pouvoir rajouter des compléments d'information sur la partie logicielle, c'est-à-dire est-ce qu'on joint de manière automatique via le modèle de machine la machine virtuelle à un domaine Active Directory, est-ce qu'on lui installe des rôles Windows complémentaires, est-ce qu'on lui installe des applicatifs, est-ce qu'on met des fichiers de réponse complémentaires pour pouvoir enrichir encore la configuration, est-ce qu'on démarre un script post-installation. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on va voir dans un modèle de machine virtuelle. Là encore, plutôt que des mots, je te propose de nous faire une petite démonstration de tout ça.
Eh bien, regardons effectivement un petit environnement VMM relativement simple. Alors, si vous avez vu une console VMM, déjà, ça se gère en trois parties. Hein. On a effectivement la partie qui consiste à la gestion des machines virtuelles. Donc ça, c'est l'administration des VM. Ensuite, j'ai la gestion de ma fabrique. La fabrique, c'est l'ensemble des ressources d'un environnement virtualisé. Les hyperviseurs et toute la quincaillerie qu'il y a en dessous en fait, des machines virtuelles. Et puis, c'est effectivement la partie librairie qui là va constituer l'ensemble des ressources qui vont constituer un déploiement d'une machine virtuelle dans mon environnement. Donc, on a plusieurs parties dans la librairie, notamment dans la partie template. On a la possibilité effectivement de définir des templates de VM. Qu'est-ce que ça va faire? On va créer un VM template. Premier élément qu'il va nous demander quand on va créer un modèle de machine virtuelle, c'est sur quoi est-ce que tu veux te baser comme disque dur virtuel, parce que c'est quand même un des éléments fondamentaux d'une machine virtuelle, son disque dur virtuel. Donc ici, on peut partir de modèles vides, hein, de VHD ou de VHDX vides. qui contiennent rien, qui sont créés par VMM par défaut, mais on peut aussi se baser sur des masters qu'on a créés nous-mêmes, donc des fichiers VHDX, 6PrP avec une taille bien particulière. Hop,
donc ça veut dire qu'au préalable, tu as créé une machine virtuelle, tu l'as bien mise à jour avec l'année patch,
voilà.
Tu as fait un 6PrEP dessus, mm-hmm. et ensuite, cette machine virtuelle, tu as pris le disque dur et tu l'as stocké en fait dans la librairie de VMM. Voilà. La librairie, c'est là en fait où on retrouve entre guillemets toutes les composants sources, c'est-à-dire les fichiers ISO, les disques durs VHD, les scripts, je crois que je n'ai pas dû oublier grand-chose.
Mmh. Mais soit étant, on peut positionner à peu près ce qu'on veut, hein.
Oui.
Même si ce n'est pas recommandé. On va donc ici valider l'étape suivante, et dans cette étape suivante, on va dire comment est-ce que tu veux nommer ton type de machine virtuelle. Bah, ici, template VM, hop, MVA. Et là, choix philosophique. Est-ce que tu veux créer une machine virtuelle de génération 1 ou de génération 2 ?
C'est pas réellement philosophique en fait. C'est vraiment un choix qui, dans le cadre de Windows, que là on parle de migration vers du Windows Server 2012-2012 R2, c'est-à-dire les versions récentes, donc on a les deux options. Mais philosophique peut-être dans le sens qu'est-ce qui est mieux ?
Effectivement, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce que je voudrais faire avec ce template dans l'avenir ? Parce qu'il y a une petite limitation dans System Center 2012 R2, c'est que si je crée un template de génération 2, je ne pourrais pas créer un template de service. Donc ça me permet d'introduire cette notion de template de service. En fait, template de service, c'est quoi ? C'est un ensemble de templates de VM qui sont agencés entre eux. Parce que tu vois, un service, ça peut être, ça peut être un frontal web, ça peut être un back-end SQL. Donc on va pouvoir créer vraiment des modèles de service qui vont inclure tout ça d'un coup. Donc c'est l'élément un petit peu plus complexe. Donc c'est à avoir en tête quand on va faire un template de VM. Si je fais un template de VM Gen 2, je ne pourrais pas agencer ça dans un modèle de service. En tout cas, dans ce qu'on est en train de te parler, dans 2012 R2.
Et si tu me permets de rajouter,
si
on prend un modèle de type 2, on aura également un souci si par hasard on veut pouvoir déplacer cette machine virtuelle vers un environnement externalisé, tel que Microsoft Azure IaaS par exemple. Donc on vous encourage peut-être dans un premier temps à vous focaliser plus sur des machines virtuelles de type 1 plutôt que de type 2, surtout si vous pensez à un mode hybride dans le futur.
Absolument. Alors c'est parti, on valide donc vers l'étape suivante. Et l'étape suivante nous demande là quel stéréotype tu veux avoir pour le hardware. Donc là, est-ce que ce template que tu crées, il est capable de tourner sur ces différents hyperviseurs ? Là en l'occurrence, comme je vous ai créé un fichier VHDX, il y a quand même pas mal de chances pour que ça tourne sur d'hyper-V au préalable. Donc je vais précocher cette étape-là. Ensuite, en matière de processeur, je dis voilà, j'ai besoin de deux processeurs sur cette machine. Je vais utiliser de la mémoire dynamique avec par exemple 1 giga de mémoire de boot. Et puis ensuite, tu te débrouilles pour quelque chose entre 512 et puis le maximum qui est disponible sur la machine.
Donc là, tu es sur le paramétrage par défaut du hardware. On pourrait également, là encore, créer plusieurs modèles de hardware, c'est-à-dire le haute performance, le par défaut et le basse performance, ce qui permet, lors de l'utilisation du déploiement via un template, de choisir la puissance de la machine.
Exactement. Donc là, j'ai également à disposition un ensemble d'autres éléments constitutifs de la configuration, comme le disque dur. Donc là, il me dit, je vais aller chercher le disque dur sur tel emplacement quand je vais créer la machine virtuelle, simplement le master de la librairie que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Et puis là, en matière de connectivité réseau, qu'est-ce que tu veux qu'ait comme configuration réseau cette machine ? Donc là, on peut dire, tu te connectes sur Ethernet, sur cette interface Ethernet, et comme ça me permettra peut-être de gérer ensuite différents paramètres, comme par exemple la jointure au domaine. Là, j'ai des choses additionnelles, comme la configuration en mode NUMA, la configuration des priorités en matière de CPU, etc., etc. Hop, on valide cette étape de configuration matérielle. Ensuite, il va nous dire qu'est-ce que tu veux configurer dans l'operating system. Dans l'operating system, ici, tu peux spécifier un nom de machine. Ici, je mets étoile parce que je n'ai pas envie d'en spécifier un. Donc, il va la récupérer, en fait, quand c'est étoile, il va récupérer ça depuis le nom de la machine que je spécifierai dans l'assistant de création d'une nouvelle VM.
Et donc l'assistant de création de nouvelle VM, si on met rien de base, il va prendre un nom aléatoire. Mm-hmm. On peut également utiliser ici du nommage automatique, par exemple, si je sais pas, vos serveurs membres s'appellent membre 01, membre 02, membre 03. Vous pouvez donner ici, au niveau du nom de la machine, taper membre dièse, et automatiquement, en fait, il va prendre le dièse et des chiffres, et les incrémenter au fur et à mesure. Donc si vous créez 10 VM, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. la 11e, automatiquement il prendra le 11, etc. Donc c'est un moyen également d'automatiser les noms de manière assez simple, par exemple pour des rôles donnés web. Ça passe bien avec du web, par exemple, Frontal Web 01, 02, 03.
Plutôt cool, un truc qui est présent ici, si tu peux remarquer qu'en fait j'ai un guest OS profile, donc je peux dire soit j'en choisis pas, soit j'en crée un nouveau, donc je compose un ensemble d'éléments constitutifs de ma configuration. Ou alors j'utilise un truc que j'ai déjà spécifié dans un template précédent, je peux réutiliser des composants. Donc là par exemple j'ai un guest OS profile que j'avais déjà configuré et qui est une machine qui utilise différents paramètres. Donc là on voit que j'ai un password admin local que j'ai déjà préconfiguré, une clé produit et ici d'après le nom je pense que tu devines que c'est une clé AVMA, donc une clé produit que tu trouves sur TechNet qui est la même partout et qui permet de faire activer la VM par l'hôte physique qui est en dessous.
Sous réserve 2.
Une édition data center.
2012 R2.
J'ai sélectionné la time zone donc dans ce profil pour être Paris. Pas de rôle spécifique. De toute façon, comme on est dans une VM simple, les paramètres de rôle ne sont pas pris en compte. En fait, ils sont pris en compte uniquement dans un service template. Là, j'ai déjà pris le domain join, donc avec des credentials que j'ai spécifiés, je joins le domaine W2K12. Et puis, je vais rajouter le petit plus de la maison qui permet de mettre le fichier XML pour avoir un clavier français, ce qui plutôt appréciable.
Ne gâche rien.
Voilà. Je peux même rajouter un petit run once, hein, donc une commande qui sera initialisée uniquement la première fois que la machine virtuelle sera lancée. Configuration applicative, de la même manière, je peux ici stéréotyper des profils de compatibilité hardware pour déterminer ensuite l'installation de tel et tel software. Hop, la configuration SQL, j'en ai pas besoin. Hop, ici, on va créer le template et puis on va valider la configuration. Donc en fait, une fois que j'aurai créé ça, ben, je pourrai, de manière très simple, déployer des machines virtuelles dans mon environnement. J'appuie sur le bouton ici, Create Virtual Machine, et je lui dis Test VM MVA. Je vais prendre ici tel rôle, donc je revalide les paramètres que j'avais définis précédemment. Ici, il me dit, est-ce que tu veux retoucher ces paramètres? Bah, là, tu vois qu'il a repris le nom test VMMVA. Il a repris le domain join. Je lui dis, tu me places cette machine sur n'importe quel environnement.
Là, c'est intéressant, c'est que la machine peut être posée en fait, à trois endroits.
Ouais.
Soit sur effectivement un hyperviseur de données, un groupe d'hyperviseurs de données, soit sur un cloud qui est un ensemble agrégé de ressources, soit directement stocké dans une librairie pour réutilisation, notamment dans un modèle.
Alors là, la prochaine étape, il va essayer d'envisager sur quel serveur c'est le plus approprié de déployer cette machine par rapport à la consommation des ressources sur ces serveurs. Donc là, il va nous proposer une liste d'hyperviseurs dans mon environnement. Donc là, tu vois, il m'a proposé que IPA Arno 1 et 5 sont des environnements de choix pour déployer cette VM. Et puis, ces autres hyperviseurs-là ne sont pas tellement des environnements de choix. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas les bonnes cartes réseau, ou ils n'ont pas la bonne VLANisation, entre guillemets, par rapport à ce que j'ai spécifié dans ma configuration hardware. Typique là, on voit que là, je suis connecté sur Ethernet maison, et effectivement, ces machines-là ne sont pas connectées à cet environnement-là. Par contre, HyperArno 1, là. Donc, je lance cette tâche, et puis à partir de ça, bah, j'aurai l'ensemble des éléments qui vont être faits pour que la machine soit opérationnelle. Je peux spécifier quelques paramètres additionnels comme les économies d'énergie pour le placement dynamique des machines virtuelles sur les hyperviseurs. Et puis là, je peux dire, bah voilà, tu t'occupes de faire tout le boulot. Et puis une fois que tu auras fini le boulot, bah, tu me démarres la VM et puis je commencerai à en prendre le contrôle pour mes opérations. Donc on voit que là, on a quand même une alternative à la création de VM qui est super simple et qui me permet de vraiment délivrer une machine virtuelle en quelques minutes.
Oui, et ça, c'est des remarques qu'on a eu beaucoup de clients et qui on a pu discuter et qui nous disent, nous, même pour proposer une machine virtuelle, aujourd'hui, il nous faut 8 heures ou 3 jours, etc. Là, techniquement, et là, tu as fait l'opération, la version la plus lente à faire, c'est-à-dire manuellement de venir sélectionner chacune des options, faire Next. Donc, tu as fait vraiment l'option très graphique, très simple. Mais là, au final, d'ici à peu près 5 minutes, tu auras une machine dont l'OS sera installée, avec le bon clavier, etc., dans le domaine, et finalement prêt à recevoir après des applications. Si on veut industrialiser ça un petit peu plus, hein, tout ce qu'on a vu ici au travers d'une interface graphique, on peut le consommer dans un script en PowerShell, parce que tout ce qui est exposé dans un VMM est composable en PowerShell. Donc on peut lancer ce template directement depuis un script. Donc du coup, après, le mettre dans des tâches d'orchestration, via un workflow, etc., etc.
Voilà à quoi ça ressemble un déploiement de VM moderne avec System Center 2012 R2.
Donc on vient de voir différentes méthodes pour migrer nos OS, nos machines virtuelles ou nos machines physiques. On va voir dans une troisième vidéo comment on va gérer chacune des fonctionnalités, chacun des rôles de Windows Server de façon à voir les nouveautés et la façon dont on va les migrer. Et puis, pour conclure, Vous avez ici nos coordonnées de blog, nos coordonnées de Twitter, le hashtag CourMVA, si jamais vous voulez nous contacter par ce biais de Twitter. Donc, merci, à bientôt.
Au revoir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dédiée aux migrations des différents rôles de Windows.
À très vite.